Claire Viget.
Bonjour. Le contournement de la Chaux-de-Fonds par la H18 soumis au peuple le 28 novembre n'anime pas que la sphère politique. Sa construction pourrait encore être retardée de plusieurs mois en raison du traitement des oppositions. Les automobilistes vont devoir se montrer vigilants dans les gorges du Seillon. Pendant près de 2 semaines, des travaux vont les obliger à se rabattre sur la droite plutôt que sur la gauche à la montée. Subtil. Le NUC veut poursuivre son rêve. Les volleyeuses neuchâteloises accueillent Prométhée Nipro ce soir à l'occasion du match aller du 3e tour qualificatif de la Ligue des Champions. Une double confrontation qui peut offrir au NUC une place en phase finale de la compétition. Et puis, si toutes les brumes matinales ne sont pas encore dissipées, ça devrait être le cas en début d'après-midi. Au final, sous un ciel relativement ensoleillé, les thermomètres afficheront des valeurs de saison. La campagne sur le contournement routier est de la Chaux-de-Fonds bat son plein. Les Neuchâtelois diront le 28 novembre s'ils acceptent le crédit de 186 millions de francs, dont 73,1 millions à la charge du canton, pour construire cette route afin de désengorger le centre-ville. Mais la bataille n'est pas que politique. Léonard Reichen, le bras de fer concernant les oppositions, connaît de nouveaux rebondissements.
Oui Claire, il faut bien distinguer dans ce dossier ces deux axes, l'un politique, l'autre juridique, qui suivent leur propre chemin en parallèle. Autrement dit, un oui dans les urnes cantonales le 28 novembre ne donnera pas un feu vert au coup d'envoi du chantier. Les procédures de traitement des oppositions suivent leur cours, elles proviennent principalement de riverains des rues de la Prairie, sur la Cluse et de l'Hôtel de Ville près de l'entrée sud du futur tunnel, mais aussi de ceux de la rue Numadro, un axe qui absorbera une grande part du trafic en plus, en tout cas avant la réalisation par la Confédération du contournement ouest via le tunnel de la H20.
Et Léonard Reichen, le tribunal fédéral se penche également sur le dossier.
Oui, l'ETF suspend l'examen d'un recours en attendant le résultat du vote du 28 novembre. Cette opposition demandait la récusation d'un juriste du service cantonal des ponts et chaussées, considéré par les opposants comme juge et partie dans ce dossier. Ce dernier avait accepté sous sa casquette de conseiller général le plan d'aménagement partiel des mobilités, un rapport d'information élaboré par la ville de la Chaux-de-Fonds pour réaménager le centre-ville, un plan que le Grand Conseil a ensuite choisi de lier à la réalisation du tunnel. Autrement dit, ce recours tombera à l'eau si le projet est refusé dans les urnes. En revanche, un oui signifiera que l'examen de ce recours par l'ETF pourra reprendre, avec à la clé un retard dans le coût d'envoi des travaux. Les choses pourraient encore se compliquer si le tribunal fédéral admet que le fonctionnaire aurait dû se récuser, ce dernier étant impliqué dans le traitement des autres oppositions au projet.
Et puis Léonard, un nouveau recours pointe le bout de son nez.
Oui, vous le savez, on l'a dit, la rue Numadro absorbera une partie du trafic dévié du futur centre-ville piéton. Déjà 14 propriétaires ont lancé un nouveau recours auprès du tribunal fédéral. Il ne concerne pas le tunnel proprement dit, mais plutôt cette liaison entre ce plan d'aménagement et la réalisation du tunnel. Les riverains demandent que l'ETF statue sur une perte de valeur des immeubles qui n'est pour l'heure pas indemnisée. On l'a dit clair, le bras de fer est donc loin d'être terminé.
Léonard Reichen, merci. Vous étiez en direct de notre studio des montagnes neuchâteloises à la Chaux-de-Fonds. Et puis toujours au chapitre routier, on se dirige vers 2 semaines de travaux dans les gorges du Seillon. Du 3 au 12 novembre, l'Office fédéral des routes va ouvrir un chantier sur la voie montante qui va obliger les automobilistes à modifier leurs habitudes. Un élément de construction, une chambre de type gathique, dans le jargon des spécialistes, va devoir être remplacée. Après une première intervention l'année dernière, la présence de trafic lourd sur ce tronçon nécessite des travaux supplémentaires pour sécuriser l'ensemble. Olivier Floic est responsable de la communication à l'Office fédéral des routes. Il nous explique ce qui va changer pour les usagers de la route pendant les 10 jours du chantier.
Pour les automobilistes, il faudra leur demander effectivement une vigilance accrue. Parce que là où aujourd'hui le trafic circule sur la piste de gauche, c'est précisément sur cette piste de gauche que se trouve ce gâtique, eh bien on va faire basculer le trafic sur la piste de droite, sachant qu'à la fin du viaduc, évidemment, on est sur une voie. Donc en termes de vitesse, on reste dans la même configuration qu'actuellement, mais effectivement, pour les gens qui sont habitués à prendre ce tronçon, eh bien, le fait de devoir se mettre sur la piste de droite plutôt que sur la piste de gauche, ça demandera effectivement un petit temps d'adaptation.
Un sujet de Julien Hirt. Le Loup, toujours plus près d'investir le canton de Neuchâtel. Le Jura a confirmé aujourd'hui la présence du canidé sur son territoire. Un individu a pu être formellement identifié dans la région du Clos du Doubs. La troisième dose de vaccin permettra bien d'étendre la validité du certificat Covid. L'Office fédéral de la santé publique l'a confirmé ce matin. Le pass sera valable un an après la dernière injection, même si c'est une dose de rappel. L'installation de panneaux solaires le long des autoroutes et des rails permettrait de produire plus de 100 gigawattheures d'électricité par an. Le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui d'adapter la législation pour mieux exploiter ce potentiel. L'armée, de son côté, a récupéré bien plus de restes de munitions que d'habitude en 2020, une hausse de 60% par rapport à la moyenne des années précédentes. Indirectement, le coronavirus expliquerait cette évolution, c'est en tout cas ce que soupçonnent les militaires. Comme il y a eu beaucoup plus de randonneurs dans les montagnes, ceux-ci ont proportionnellement mis à jour davantage d'engins explosifs. C'est en tout cas ce qu'a indiqué ce matin à l'ATS le porte-parole de l'armée. Il confirmait une information de la radio SRF. Visite inédite à Berne ce mercredi. Pas de chef d'État étranger, mais des bibliobus de Suisse. Ils se présentent sur la place de la gare. Il n'y a en fait que 5 bibliothèques itinérantes et toutes sont actives en Suisse romande, dans l'arc jurassien et dans les villes de Lausanne et de Genève. Un tel service existe à l'étranger, en Allemagne ou dans les pays nordiques, mais pas en Suisse alémanique. Pourquoi aller se présenter en terre inconnue? Écoutez la réponse du bibliobus de l'Université populaire jurassienne par la voix de sa responsable Julie Grube.
Notre idée, c'est de montrer qu'il existe des bibliobus de différentes tailles qui peuvent s'adapter à des milieux urbains, à des milieux plus ruraux. Un bibliobus aussi plutôt centré sur l'animation, comme ce que fait le bain de livres. Et c'est aussi justement de sensibiliser, que ce soit les professionnels bibliothécaires, parce que pas tous les bibliothécaires connaissent ce monde des bibliobus, mais aussi le grand public, peut-être aussi les autorités, de montrer que ça a toute son importance, que c'est un moyen fort aussi d'encourager la lecture dans des régions qui n'ont pas un accès direct et facile. On voit qu'il y a beaucoup de services mobiles qui se développent. Il y a les food trucks, il y a les services de santé, il y a des coiffeurs qui se déplacent. Tous ces genres de services itinérants qui permettent aussi de garder une certaine vitalité culturelle, sociale, peut-être économique aussi, dans différentes régions. Oui, je pense que ça a encore un avenir. On doit peut-être se réinventer, mais ça fait pleinement sens, je trouve, dans le monde dans lequel on vit actuellement.
Il y a deux modèles de bibliobus en Suisse romande, ceux du Jura et de Neuchâtel appartenant à des associations qui vont de village en village. Il existe aussi le bibliobus urbain à Genève et Lausanne et ce sont là des services associés aux bibliothèques publiques. Patricia Fleury est responsable du bibliobus de la ville de Lausanne.
Effectivement, le bibliobus de la ville de Lausanne ne tourne que dans la ville de Lausanne. On va le plus loin, c'est vers Chez-les-Blancs, qui est un peu à l'extérieur de Lausanne, mais qui fait partie des communes de Lausanne. Et en fait, on sillonne différents quartiers, pas tout à proximité des bibliothèques. On a 17 arrêts dans la ville et certains, on y va une fois toutes les semaines et certains tous les 15 jours. Ce qu'on se rend compte, c'est que dans certains quartiers, les enfants ne vont pas en bibliothèque. S'il n'y avait pas le bibliobus qui venait, les parents ne les amènent pas. Et puis au niveau des personnes âgées aussi, on s'arrête au pied de leur immeuble si elles doivent aller dans une bibliothèque, elles ne le font pas. On a pu s'en rendre compte quand on a eu le Covid.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes à la fois porteur de culture, mais aussi agent social?
Oui, alors effectivement, certaines personnes, elles viennent beaucoup pour causer aussi, parce que des fois, elles ne voient personne pendant 3 jours. Donc ouais, il y a ce rôle très social dans ces quartiers avec le bibliobus, c'est très très important.
Un sujet de Serge Jubin, on relèvera que c'est la première fois que les bibliobus de Suisse mènent une action conjointe et qu'ils sont invités au Congrès suisse des bibliothèques. À l'étranger, au Brésil, le président Jair Bolsonaro a de quoi s'inquiéter. La commission d'enquête parlementaire qui investigue sur sa gestion de la pandémie a recommandé son inculpation. Elle a retenu 9 accusations, dont celle de crimes contre l'humanité.
12h25. Sport.
2 matchs pour écrire une page d'histoire. Le NUC reçoit le Prométhée Nipro ce soir lors du match aller du 3e tour qualificatif de la Ligue des champions féminines de volleyball. À la clé de cette double confrontation, une place pour la phase finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le NUC entamera ce duel en pleine confiance. Le club de la Riveraine est pour l'heure invaincu, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Mais face aux champions d'Ukraine en titre, la troupe de Lorraine Bertolacci sait que rien ne sera facile. L'équipe a d'ailleurs préparé ce match avec beaucoup d'attention, comme l'explique la jeune libéro du NUC de seulement 18 ans, Fabiana Motis.
On a eu déjà la théorie sur le match, on a regardé des vidéos. On sait que l'équipe, tout le monde est grand, alors elle sera un peu difficile, mais on sait que si on joue bien, Elle sera vraiment un bon match.
Pour vous, à 18 ans, jouer la Ligue des Champions, c'est quand même extraordinaire.
C'est vraiment extraordinaire. C'est la première fois du club et aussi ma première fois que je joue vraiment avec la Champions League. Et puis, il y a aussi le public que c'est vraiment incroyable. Alors, je suis un peu nerveuse, mais on verra. Moi, je crois que de jouer avec des joueurs tellement... avec beaucoup d'expériences, ça il aide aussi les jeunes parce que je n'ai pas beaucoup d'expériences. Alors je peux demander, vraiment on communique beaucoup avec l'équipe, alors ça aide.
Des propos recueillis par Guillaume Joly. Le coup d'envoi de ce premier duel du troisième tour qualificatif de la Ligue des champions de volleyball entre le NUC et Prométhée Nipro sera donné ce soir à 20h à la Riveraine. Une rencontre à suivre sur RTN dès 19h45. La saison de Valère Thiébaut se termine ce vendredi. Le cycliste du Val-de-Ruz participe au Centre mondial du cyclisme à Aigle, au dernier championnat suisse sur piste de course au point. Il prendra ensuite 3 semaines de vacances, une pause bien mérité après une année 2021 intense. Valère Thiébaut est devenu champion de Suisse sur route espoir. Il a également décroché la médaille d'argent au championnat d'Europe sur piste par équipe à Grange, sans parler de sa 8e place, de la poursuite par équipe aux Jeux Olympiques de Tokyo en août. Une expérience riche en apprentissage pour Valère Thiébaut.
Ça m'a beaucoup appris sur la préparation, comment me préparer. J'ai jamais eu un objectif aussi important dans ma vie. Et puis aussi mentalement, comment gérer ça? C'est vrai que finalement, c'est une poursuite comme une autre. Je me suis dit avant le départ, Valère, t'en as fait tout plein des poursuites, mais c'est vrai que ça, dans l'imaginaire collectif, on a fait les Jeux, donc c'est très très important. Et puis c'est aussi comment gérer tout ça.
Vos objectifs à court, voire plus long terme?
L'année prochaine, je vais me concentrer plutôt sur la route. Il y aura un petit peu moins de Coupe du Monde sur piste et puis moins d'échéances sur piste. Je vais quand même garder la piste parce que j'adore ça, mais essayer de faire une bonne préparation sur route. Et puis j'aimerais bien trouver une équipe professionnelle sur route l'année prochaine. Et forcément, dans un coin de la tête, les Jeux de Paris en 2024.
Valère Thiébaut était l'invité de Sarah Massy dans la matinale. Et vous pouvez retrouver cet entretien dans son intégralité et en vidéo sur rtn.ch.